à la découverte du ciel, une émission proposée et présentée par Alain sur la Voix du Béarn 95.10.
Les amis, bonjour, c'est Alain. Eh bien, aujourd'hui, notre émission d'astronomie est consacrée à ce que vous pouvez tous voir en regardant le ciel la nuit. Je veux parler des constellations. Mais on commence par l'actualité. L'agenda d'abord noté, samedi 11 février, une éclipse de lune qui va commencer à 23h et se terminer 4 heures plus tard. Mais cette fois, la lune va rester uniquement dans la pénombre de la Terre. Ça veut dire que nous, on verra simplement une diminution de la luminosité de la lune. 26 février, éclipse de soleil. Ça serait une éclipse annulaire. Ça veut dire qu'on n'aura pas la nuit en plein jour, mais qu'on verra simplement un très bel anneau qui va briller dans le ciel. Mais pour voir ce spectacle, il faudra aller en Amérique du Sud, en Patagonie. Enfin, si on ne peut pas voir cette éclipse en Béarn, on pourra peut-être se consoler avec des comètes. D'abord, actuellement, avec des jumelles, en regardant en dessous de Vénus, on peut voir une comète qui s'appelle 2PNK. C'est une comète qui revient tous les 3 ans et 4 mois. Elle a été découverte en 1786 par Pierre Méchain. On pense d'ailleurs que c'est un morceau de cette comète qui a explosé au-dessus de la Tunguska, c'est en Sibérie, c'était en 1908. À cette occasion, les arbres avaient été soufflés dans un rayon de 40 km. Il n'y avait pas eu de victime parce qu'en Sibérie, c'était complètement désert à cette époque. Cette comète aurait dû être survolée par une sonde de la NASA en 2002. Mais il y a eu un problème qui a provoqué la destruction de la sonde un peu après le décollage. Une autre comète, 45P Honda, elle va passer celle-là à 12 millions de kilomètres de la Terre le 11 février, le jour de l'éclipse de Lune. Celle-là, elle revient tous les 5 ans et 4 mois. Pour la voir, il faudra regarder une heure avant le lever du soleil. Il y a aussi deux autres petites comètes qui vont passer, l'une à 3,5 millions de kilomètres le 21 mars, l'autre à 5 millions de kilomètres de la Terre le 22 mars. Alors ça, c'est très très près, ces distances-là. On ne peut pas encore connaître leur luminosité. Elles seront visibles dans l'hémisphère nord, un peu avant le lever de soleil, à partir de la fin du mois de mars. Il y a aussi une cinquième comète, oui, qui va passer le 5 avril à 22 millions de kilomètres de la Terre. Cette comète, elle s'appelle Tuttle Giacobini. On espère qu'on pourra la voir à l'œil nu. L'autre actualité, c'est la sonde Cassini, dont la mission touche à sa fin. Elle a été lancée en 1997, et depuis 2004, elle se promène dans le voisinage de Saturne et de toutes ses lunes. Comme elle va bientôt être à court de carburant, à partir du mois d'avril, on va lui faire une série d'orbites qui vont la faire passer de plus en plus près de Saturne. Et finalement, elle va pénétrer et se consumer dans l'atmosphère de la géante gazeuse. Ça se passera en principe le 15 septembre. Mais avant, la sonde Cassini va passer plusieurs fois entre Saturne et ses anneaux. Et les anneaux seront donc vus de l'intérieur. Et ça, c'est une première, hein. Ça nous promet tout ça des images encore extraordinaires. Ça sera un peu le feu d'artifice, le bouquet final pour cette sonde Cassini après 20 ans dans l'espace. Voilà pour notre page d'actualité aujourd'hui, les amis. Parlons maintenant des constellations. Qu'est-ce qu'une constellation? Et quand vous regardez une carte du ciel, il y en a dans tous les magazines d'astronomie, c'est très facile, ce sont des étoiles qui sont reliées par des traits blancs. Quand vous regardez le ciel maintenant, ça se complique un peu. Ça se complique parce que des traits blancs, entre les étoiles, il n'y en a plus et il n'y en a jamais eu. Alors il faut se débrouiller. Se débrouiller pour faire coller ce qu'on voit sur la carte et ce qu'on peut observer dans le ciel. Le problème, c'est que dans le ciel, on n'a pas vraiment idée des dimensions de ces constellations. Donc il faut s'entraîner, ou surtout, beaucoup mieux, se faire expliquer par... dans les sociétés d'astronomie, dans les clubs d'astronomie, à la SAPO par exemple. Qu'est-ce que c'est vraiment physiquement une constellation? C'est simple, c'est rien du tout. Ces étoiles n'ont strictement aucun lien entre elles. En fait, ce sont des étoiles qui brillent de la même façon. Mais, pratiquement toujours, ce sont des étoiles soit qui sont très loin et très brillantes, soit qui sont beaucoup plus proches et moins brillantes. Résultat, c'est que, apparemment, elles brillent de la même façon, elles ont le même éclat. D'où la tentation, légitime d'ailleurs, de les associer. Surtout que dans les temps anciens, on n'avait pas cette notion de proximité, de distance entre les étoiles et nous. On pensait que toutes les étoiles étaient épinglées sur une espèce de sphère qui entourait la Terre. Donc toutes à la même distance de la Terre. Et évidemment, à cette époque, on pensait aussi que la Terre était le centre de l'univers. Depuis quand on utilise ces constellations pour se repérer dans le ciel? En Occident, on ne sait pas vraiment. On a retrouvé, en Mésopotamie, maintenant c'est l'Irak, la Mésopotamie, on a retrouvé des écritures anciennes, cunéiformes, qui mentionnent des animaux, le lion, le taureau, le scorpion. Ces écritures datent de 4000 ans avant Jésus-Christ. Chez les Grecs, Homère parle d'Orion dans ses écrits. C'était 9 siècles avant Jésus-Christ. On a même une représentation des constellations qui sont gravées sur un vase qui date de 6 siècles avant Jésus-Christ. Les constellations du zodiaque, vous savez, les 12 constellations, vous connaissez bien, le Capricorne, le Lion, la Vierge, la Balance, etc., elles apparaissent 5 siècles avant Jésus-Christ. Et l'ouvrage qui fait référence dans ce domaine, c'est bien sûr l'Almageste de Ptolémée, qui a été écrit 2 siècles après Jésus-Christ. Là, Ptolémée décrit 48 constellations, les 12 du zodiaque, plus d'autres comme Cassiopée, la Grande Ourse, la Petite Ourse, etc. Mais elles font toutes référence à des étoiles qui sont uniquement visibles quand on est près de la Méditerranée. 1603, l'astronome allemand Bayer va en rajouter 12, celles de l'hémisphère sud. Il y a le Toucan, la Dorade, le Caméléon. Alors ce sont des voyageurs, à l'époque c'était plutôt des explorateurs, qui lui ont rapporté une cartographie du ciel de ces régions. 1624, un autre Allemand, Barth, en rajoute 5. Il y a la licorne, la girafe, la croix du sud, qui existent encore. Et puis il y a aussi le tigre et le Jourdain, deux constellations qui ont disparu. 1643, on en rajoute encore la mouche, qui est près du bélier, et qui sera rebaptisé par la suite, sous Louis XIV, Fleur de Lys. Ah oui, ça, c'est un hommage, c'est un courtisan un peu zélé qui a voulu faire un hommage à Louis XIV. Il y a aussi le spectre. Elles vont disparaître, celles-là. 1690, Hevelius, astronome polonais, va en proposer d'autres. Par exemple, les chiens de chasse, l'écu de Sobieski, le lynx. Pourquoi le lynx? Parce qu'il fallait des yeux de lynx pour l'y voir tellement ses étoiles brillaient faiblement. Ces constellations sont toujours d'actualité. 1763. L'abbé Lacaille, qui est un astronome français du XVIIIe siècle, est en voyage au Cap en Afrique du Sud. Il va compléter des pans entiers du ciel austral où il n'y avait absolument aucune constellation. Il va en dessiner 15. Les noms? La boussole, le compas, le microscope, le télescope, etc. Il y a aussi la table. La table en référence à la montagne de la table qui domine la ville du Cap, d'où il faisait ses observations. Ces noms sont des noms d'instruments scientifiques. Et oui, parce que c'est bien dans l'idée de l'époque où les sciences, la technique, remplaçaient la mythologie. Lacaille va aussi découper une énorme constellation qui s'appelait le navire Argo en 3 petites constellations, la Carène, la Poupe, la Proue. À la même époque, à peu près la Révolution, c'est Jérôme Lalande, autre grand astronome du XVIIIe siècle, qui va inventer 2 constellations, l'aérostat, et oui, c'est le début des premiers ballons, et puis le cadran mural. Le cadran mural, c'est un quart de cercle qu'il utilisait fréquemment pour faire ses observations. C'est l'équivalent d'un sextant, mais qui ferait 90 degrés. L'aérostat a disparu, le cadran aussi. Il n'a pas complètement disparu, le cadran, parce qu'il a donné son nom aux quadrantides. Ce sont des étoiles filantes qui semblent provenir de la région du ciel où il y avait le cadran, à l'époque, mais qui se situe entre le Bouvier et la Grande Ourse. Ces étoiles filantes, les quadrantides, apparaissent autour du 3 janvier. Et voyez, les amis, dans le ciel, au cours de l'histoire, il y a des constellations qui sont apparues, d'autres qui ont disparu, d'autres qui ont été oubliés, d'autres qui ont gagné en notoriété, d'autres qui ont changé de nom. Vous voyez, ces constellations, ben en fait, dans l'histoire, ça va, ça vient. Qu'est-ce qu'il en est pour les autres civilisations? Alors bien sûr, ils regardent aussi le ciel comme nous, et ils ont aussi défini leur système de constellations. Par exemple, les Inuits. Les Inuits, ils vivent dans le Grand Nord, entre le Groenland et l'Alaska. Et ils bénéficient, si je peux dire, d'une nuit qui dure 4 mois et demi. Et on pourrait penser qu'avec une nuit aussi longue, ben ce sont de fins connaisseurs du ciel. Ben en fait, pas tellement. Pas tellement parce que, d'abord, il y a la Lune. La Lune, elle est présente la moitié du temps. Et la lumière de la Lune se reflète sur la neige et la glace et ça empêche de bien voir les étoiles. Ensuite, il y a du vent qui peut faire voler la neige, qui peut faire une espèce de brouillard qui masque le ciel. Sans parler des aurores boréales qui masquent tout. Et puis, quand ils ont une bonne nuit, peut-être qu'avec le froid ambiant, ils n'ont pas tellement envie de sortir pour regarder les étoiles. En fait, chez eux, il y a simplement 6 ou 7 étoiles qui sont répertoriées et qui ont des noms. Curieusement d'ailleurs, il n'y a pas d'étoile polaire dedans. Ils ont aussi défini 16 constellations qui sont associées à des mythes et des légendes où les animaux et les hommes ont les rôles principaux. Il n'y a pas de dieu, pas de héros. Les noms, vous en voulez? Aviguti, la Voie lactée. Oulakout, la ceinture d'Orion. Stakiaktiak, les Pléiades. Il y a aussi Usutatiak, c'est Cassiopée. Et puis, Tukturjuit, c'est la grande ours. Bon, je n'ai peut-être pas un très bon accent inuit, pardonnez-moi. Partons maintenant en Polynésie. Les Polynésiens, eux, bon, c'est essentiellement des marins et des pêcheurs. Ils peuvent parcourir avec leurs pirogues des distances énormes, et les étoiles leur servent à naviguer. Pour eux, les constellations et les étoiles portent des noms soit d'animaux, oiseaux, poissons, grands requins, beaux requins, soit d'instruments qui servent à naviguer et à pêcher, filets, hameçons, pirogues. Pour certains Polynésiens, la pirogue est située entre Orion et les Pléiades. Pour d'autres, la pirogue occupe la queue du scorpion. Bien qu'étant des noms d'objets très concrets, le filet, l'hameçon par exemple, eh bien, ces constellations en Polynésie sont associées à des symboles ou des légendes. Les oiseaux, ben, quand on navigue et qu'on voit des oiseaux, c'est le signe annonciateur qu'on s'approche d'une terre. La pirogue symbolise celui qui partage la découverte de nouvelles îles. C'est aussi avec une pirogue que la déesse lunaire est montée dans les cieux. L'hameçon magique, c'est grâce à lui qu'on peut attraper, entendez, découvrir de nouvelles îles. En fait, pour les Polynésiens, tout ça, ça symbolise l'union du ciel et de la mer. Chez les Chinois, alors là, les constellations, elles sont nombreuses. 283. Et encore, ça ne concerne que le ciel qui était visible depuis l'Empire chinois. Évidemment, comme elles sont beaucoup plus nombreuses, elles sont beaucoup plus petites que les nôtres. Il y en a même certaines qui n'ont qu'une seule étoile. Contrairement à l'Occident, qui peuple le ciel de héros et de dieux mythologiques, les Chinois, eux, considèrent que le ciel, c'est l'image de leur empire. En haut, tout en haut, près de l'étoile polaire, il y a le palais impérial, avec des constellations qui représentent beaucoup de détails. Il y a la prison, les cuisines, les dortoirs, il y a même une constellation qui symbolise les WC. Ensuite, il y a les murailles, puis il y a d'autres palais, puis il y a les dépendances. Il y a le char impérial, c'est la grande ours. Et puis quand on s'éloigne, ce sont les autres provinces. Et puis les zones les plus éloignées du palais, elles symbolisent les provinces qui sont situées aux frontières de l'Empire, là où il y a souvent des guerres. Et elles ont des constellations qui sont liées aux activités militaires. On retrouve aussi chez les Chinois l'équivalent des constellations de notre zodiaque. Il y en a 28 au lieu de 12 chez nous. Les Chinois voient aussi parfois dans la grande ours un boisseau qui servirait à mesurer les céréales. Bon, l'origine de tout ça, c'est très ancien. On pense que le système a été mis en place il y a au moins 2 ou 3000 ans avant Jésus-Christ. Et les plus anciennes cartes du ciel, on les a retrouvées sur des vases qui datent du 7e siècle avant Jésus-Christ. Les Chinois observaient beaucoup le ciel. Ils observaient les supernovas, par exemple. Ils observaient également les comètes. Et on a pu retrouver dans des textes, on a pu retrouver les passages de la comète de Halley sur une période de 3000 ans. Voyez les amis, pour les Chinois, le ciel, c'est un peu l'équivalent de leur empire. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'empereur de Chine était surnommé le fils du ciel. Donc si je résume, alors, chaque région de la Terre a ses propres constellations, qui d'ailleurs, à l'intérieur d'une région, peuvent varier avec le temps. C'est assez compliqué pour s'y retrouver, hein. C'est pourquoi, dans les années 1900, on a quand même ressenti le besoin de rationaliser tout ça et de mettre fin à cette pagaille. L'Union astronomique internationale a fixé définitivement en 1930 les constellations actuelles, de façon à ce que tout le monde parle bien de la même chose. Ces constellations, elles se définissent maintenant non pas par un groupe d'étoiles reliées par des traits blancs, mais par une zone du ciel où sont situées ces étoiles. On a divisé le ciel en 88 zones, 88 constellations donc, et on a défini précisément les limites de ces zones avec un système de coordonnées célestes qui sont l'ascension droite et la déclinaison, c'est un peu l'équivalent de la latitude et de la longitude sur Terre. Et donc les limites, elles sont parfois un peu biscornues parce qu'on s'est quand même arrangé pour que les étoiles d'une constellation, je dirais à l'ancienne, se retrouvent toutes dans la même zone. Pour l'hémisphère nord, on s'est inspiré des constellations de Ptolémée. Et pour l'hémisphère sud, on a conservé également les noms qu'avait donné l'abbé Lacaille. Voilà, j'en profite aussi pour vous dire que l'œil nu, on voit environ 6000 étoiles. Toutes appartiennent à la Voie lactée. Il y en a qu'on voit toute l'année, l'étoile polaire, les étoiles de la Grande Ourse, les étoiles de Cassiopée. Il y en a qu'on voit que l'hiver, c'est Orion, d'autres que l'été, c'est la Lyre, et puis d'autres qu'on voit jamais, parce que pour les voir, il faudrait aller dans l'hémisphère sud, typiquement la Croix du Sud. Dans la seconde partie de l'émission, les amis, nous allons voir quelques-unes de ces constellations que vous connaissez bien, et on verra à la fois l'aspect astronomique et l'aspect mythologique.
We can't. We lost. Take it easy. For there is nothing that we can. We lost. Take it easy. Blame it on me.
rejoignez sur 95.10, les amis, aujourd'hui notre émission d'astronomie est consacrée à quelque chose que vous voyez dès que vous regardez le ciel. Les constellations. Dans la première partie de l'émission, nous avons vu les constellations chez les différentes civilisations. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'examiner quelques-unes de ces constellations, tant du point de vue astronomique que du point de vue mythologique, avec les légendes qui s'y rattachent. On commence par celles que vous connaissez bien, celles qui sont situées sur l'écliptique. L'écliptique, oui. La Terre tourne autour du Soleil. Ça délimite un plan qu'on appelle le plan de l'écliptique. C'est aussi dans ce plan que tournent toutes les autres planètes. Dans le ciel, c'est facile à repérer. L'écliptique, c'est l'endroit où passe le Soleil au cours de la journée. Et au cours de la nuit, si vous cherchez une planète, c'est dans cette zone-là qu'il faut la chercher. Les constellations qui sont situées sur l'écliptique, alors les astrologues ont des nombres 12, le lion, le poisson, le capricorne, mais les astronomes savent bien qu'il en existe en fait 13. La 13e, c'est Ophiuchus, qu'on appelle encore le serpentaire. On va commencer par celle-là. Ophiuchus est situé entre le scorpion et le sagittaire. C'est une constellation qui est connue depuis plusieurs millénaires. Elle a été décrite dans des poèmes grecs du 3e siècle avant Jésus-Christ. Vous savez que sur les cartes du ciel, on peut représenter les constellations en reliant les étoiles par des traits blancs, mais on peut aussi avoir une représentation un peu plus artistique. On va dessiner autour de ces étoiles l'objet qu'elle symbolise, ou l'animal. Par exemple, la constellation du lion, on va dessiner un lion, une ours autour de la grande ours. Pour le serpentaire, pour Ophiuchus, le dessin, c'est un homme qui s'appelle Asclépios, c'est le fils d'Apollon. Il tient un serpent, la tête de sa main gauche et la queue de sa main droite. Alors, une des légendes associées, c'est qu'Asclépios, qui avait reçu le don de guérir, un jour, il tue un serpent. Et voilà qu'il voit un autre serpent arriver avec des herbes dans la gueule. Et ce serpent va ranimer celui qui était mort. Asclépios était devenu un tellement bon médecin qu'il arrivait lui aussi à ressusciter les morts. Évidemment, ça ne plaisait pas trop au dieu de l'enfer, Hadès, qui craignait bien sûr de plus avoir de clients. Hadès va aller se plaindre auprès de Zeus. Il va convaincre le dieu des dieux de foudroyer Asclépios. Mais, pour honorer son talent de médecin, Zeus va placer Asclépios dans le ciel avec son serpent. Asclépios, c'est aussi Esculape, vous savez, et le serpent, c'est celui qui figure sur le bâton d'Asclépios, sur le caducée, qui est l'emblème des médecins. Du point de vue astronomie, Ophiuchus, ou le Serpentaire, c'est une constellation qui est assez difficile à voir. Il n'y a pas d'étoiles caractéristiques. Néanmoins, il y a quand même certains objets intéressants. Par exemple, des amas stellaires, comme M5, des nébuleuses. Il y a aussi un amas de galaxies qui s'appelle le sextet de Sépher. Ce sont 5 petites galaxies qui sont très près, dans un espace qui fait moins de 100 000 années-lumière. 100 000 années-lumière, c'est la dimension de la Voie lactée toute seule. C'est aussi le siège de la supernova de 1604. Alors une supernova, c'est une étoile en fin de vie qui explose et qui devient très brillante pendant quelques mois. Et celle de 1604, elle a été vue par Kepler et décrite. Passons maintenant à la constellation du Capricorne. C'est peut-être la plus ancienne qui soit connue. On retrouve sa description sur des tablettes babyloniennes. On représente cette constellation comme un animal qui est mi-chèvre, mi-poisson. Une des légendes grecques qui est associée à cette constellation, elle fait référence à Pan. Pan, c'était le dieu qui était protecteur des bergers et des troupeaux. On le représente comme un homme avec des cornes et des pieds de chèvre. L'histoire, c'est la suivante. Les dieux de l'Olympe festoyaient tranquillement quand ils se font attaquer par un dieu, un méchant dieu, celui-là, un certain Typhon, qui est le dieu des tempêtes. Oui. Alors, pour lui échapper, il se transforme en animal. Pan devient chèvre, mais en fait, il veut devenir poisson. Il plonge dans l'eau, mais il rate son coup, et finalement, il n'y a que l'arrière-train de la chèvre qui se transforme en queue de poisson. Alors cette transformation a beaucoup plu à Zeus, qui finalement va décider de mettre cet animal un peu bizarre au ciel, sous forme d'une constellation. Du point de vue astronomie, la constellation du Capricorne est située dans un endroit du ciel où il n'y a pas énormément de choses intéressantes, pas d'objets très spectaculaires. On peut citer par exemple quand même Grédy. Grédy, c'est une étoile qui a l'air d'être une étoile double. On peut même voir les deux étoiles pratiquement à l'œil nu. Mais c'est juste un effet de perspective, parce que ces deux étoiles sont en fait séparées de 530 années-lumière. On trouve aussi un amas globulaire qui s'appelle M30. Il est à 40 000 années-lumière de nous, et il se rapproche de nous à la vitesse de 600 000 km/h. On continue avec la constellation du Verseau, qui est visible en automne. La légende la plus couramment associée au Verseau, c'est celle de Ganymède. Ganymède, c'était un berger grec, un peintre grec, très beau garçon. Zeus, qui passait par là, en tombe follement amoureux. Zeus, alors, se déguise en aigle et emporte Ganymède au mont Olympe, là où habitent tous les autres dieux. Ganymède devient bien sûr l'amant de Zeus, et Zeus va aussi le nommer Échanson. L'Échanson, c'est celui qui verse à boire. D'où la représentation imagée du Verseau, c'est un homme qui tient une jarre d'où s'échappe un flot de liquide. Héra, l'épouse de Zeus, est furieuse de voir son mari la tromper avec un homme. On peut comprendre. D'autant qu'en plus, Ganymède a pris la place de sa fille qui occupait le poste d'Échanson avant Ganymède. Elle somme Zeus de réintégrer Ganymède dans le monde des mortels. Zeus ne lui obéit pas et va placer Ganymède dans le ciel. Du point de vue astronomie, le Verseau se situe dans une région du ciel qu'on appelle la mer ou la marine, parce qu'il y a la constellation de la baleine, celle des poissons, il y a aussi celle de l'Éridan, le fleuve qui s'échappe du récipient que tient le Verseau. Il y a peu d'étoiles remarquables dans cette zone, mais il y a surtout la nébuleuse Hélix. Hélix, c'est un objet incontournable pour les astronomes amateurs. C'est une étoile en fin de vie qui a explosé, et les couches externes de cette étoile s'en éloignent. S'en éloignent de façon symétrique. Ça donne une forme d'anneau ou encore de rond de fumée, voire d'un œil aussi. Il faut un télescope absolument pour voir Hélix. Justement là, parlons maintenant de la constellation des poissons, visible en automne aussi. Elle est entre le Verseau et le Bélier. Les étoiles qui composent cette constellation forment dans le ciel un grand V avec deux anneaux aux extrémités des branches, anneaux qui ne sont pas très faciles à voir d'ailleurs. Sur les dessins, on représente la constellation par deux poissons reliés par une corde qui leur enserre la queue. L'histoire est assez simple pour une fois. Aphrodite, déesse de l'amour, se promène avec son fils Eros, dieu du désir, le long de l'Euphrate. Apparaît alors Typhon, le méchant Typhon, dieu des tempêtes, qui se met à les pourchasser. Aphrodite appelle Zeus à la rescousse. Deux poissons reliés par une corde apparaissent, Aphrodite et Héros s'accrochent aux poissons qui les emmènent sur l'autre rive. Pour les remercier, Zeus décide de placer les poissons dans le ciel. Une autre version dit qu'Aphrodite et Héros se seraient transformés en poissons pour échapper à Typhon et se seraient attachés par la queue pour éviter de se perdre. Il y a assez peu d'objets à voir dans cette zone-là. M74 est une galaxie spirale qu'on voit de face, et il faut bien sûr un télescope pour la voir. On a découvert par contre très récemment une exoplanète qui est distante de 300 milliards de kilomètres de son étoile. Ah, une exoplanète aussi loin de son étoile, c'est du jamais vu. Ça représente 2000 fois la distance Terre-Soleil. C'est aussi dans les poissons que se situe l'origine de l'ascension droite. L'ascension droite, c'est la coordonnée céleste qui correspond sur Terre à la longitude. Maintenant, la constellation du Bélier. Oh, elle est assez discrète, hein. Elle est visible en hiver à l'est des Pléiades. Une des légendes grecques raconte que Zeus a envoyé un bélier, le bélier à la toison d'or, pour venir en aide à Pricos et elle, que leur belle-mère voulait trucider. Pricos et elle montent sur le dos du bélier, s'enfuient, mais au cours de la fuite, elle va tomber, et seul Pricos s'en réchappe. En arrivant, il sacrifie le bélier à Zeus, qui place Illico le bélier dans le ciel. Avant quand même, le bélier à la toison d'or laisse cette toison d'or sur terre, il en confie la garde à un dragon, que devra vaincre Jason, après moult péripéties, pour s'emparer de cette toison d'or. Les étoiles du bélier sont moyennement brillantes, on y trouve quelques galaxies, pas très brillantes non plus, enfin rien de très intéressant dans cette zone-là. Et on termine cette série par la constellation du taureau. Alors celle-là, par contre, c'est une constellation majeure dans le ciel de l'hiver. La représentation, c'est l'avant d'un taureau qui fonce tête baissée. Ce serait la forme divine qu'a adoptée Zeus pour enlever Europe. Europe, c'est la fille du roi de Phénicie. Europe jouait tranquillement dans une prairie quand Zeus en tombe amoureux. Il juge plus prudent de se transformer en taureau pour ne pas éveiller les soupçons de sa femme Héra, très jalouse. Il s'approche d'Europe, se laisse caresser, Europe finit par monter sur son dos, et alors là, il s'enfuit en emportant Europe, il va même traverser la mer à la nage pour la déposer en Crète. Il va lui donner 3 fils. Du point de vue astro, alors là, contrairement aux constellations précédentes, là, c'est très très riche en objets très intéressants. Il y a des étoiles, par exemple, Aldébaran. Dans la constellation, c'est l'œil du taureau. C'est une géante rouge qui est à 65 années-lumière de nous. Elle est 65 fois plus grosse que le Soleil et 150 fois plus lumineuse. Il y a aussi une étoile qui s'appelle Tétori. C'est une étoile jeune dont la caractéristique est sa luminosité qui varie. Et cette étoile a donné son nom à toutes les étoiles qui se comportent de cette façon. On dit que c'est une étoile Tétori. Il y a aussi des amas. Bon. Les Hyades. Alors là, c'est l'amas d'étoiles le plus proche de nous, qui est à 150 années-lumière. Il y a à peu près 300 à 400 étoiles. Pour la représentation, les Hyades correspondent à la tête du taureau. Mais l'amas le plus spectaculaire, c'est bien sûr les Pléiades. Les Pléiades, c'est une des vedettes du ciel d'hiver. À l'œil nu, on distingue facilement 6 ou 7 étoiles. Très brillantes. Mais en tout, il y en a plus de 3000. Les Pléiades sont à 400 années-lumière de nous. En japonais, Pléiade se dit Subaru, et ses étoiles figurent sur le logo de la firme, le logo des voitures Subaru. Il y a d'autres amas aussi moins spectaculaires. Il y a des nébuleuses, en particulier M1. C'est le premier objet répertorié par Charles Messier dans son catalogue. C'est la nébuleuse du crabe. Oui, parce que dans un télescope, on voit des filaments qui ressemblent un peu les pattes d'un crabe. C'est les restes d'une étoile qui a explosé en 1054 et qui a été observée par les Chinois. Au centre de cette nébuleuse, il y a un pulsar, une étoile à neutrons, qui tourne à la vitesse de 30 tours par seconde. 30 tours par seconde. Bon, il y a aussi bien d'autres nébuleuses. Voilà, mais voilà, notre émission va se terminer. Il nous reste encore pas mal de constellations à examiner. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est de continuer sur le même thème pour notre prochaine émission. Là, on parlera de la Grande Ourse, d'Orion, de Cassiopée. Voilà, je vous dis au revoir et merci de votre fidélité.
À la découverte du ciel, une émission proposée et présentée par Alain sur la Voix du Béarn 95.10.
Radio pour mon territoire, en Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, ce sont nos 83 radios associatives, une pour chaque territoire et toutes pour la grande région.
Vous savez, en tant que président de communauté de communes, tous les représentants sont ravis de pouvoir compter sur les médias locaux. Qu'ils soient des villes ou des champs, ils rendent de nombreux services au territoire. nous avons pleinement conscience qu'ils sont essentiels dans la transmission des informations sur nos actions, nos décisions et des événements prévus. Il est important de les voir vivre et de continuer à les soutenir.
Les 83 radios associatives d'Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, c'est la proximité au quotidien pour tous. Soutenez votre radio pour votre territoire.